OK, ça bouge pas à peu près, les amis. Je vais vous dire une affaire. L'actualité ça est à son diapason en ce lundi 6 octobre. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. C'est l'émission d'En Jase avec Jeff Fortin, normalement Pascal Cévin. Vous avez manqué ça, il était au sommet du Kilimanjaro ce matin. Il nous a appelé dans Marceau le matin. Allez réécouter ceci, ça se retrouve sur le blvd.fm. Félicitations à Pascal Cévin qui a réussi son ascension. Maintenant, il ne lui reste qu'à redescendre. C'est un jour et demi de descente. Ça paraît niaiseux, mais quand tu as vécu l'adrénaline de la montée, la descente peut être très difficile mentalement. Ils étaient préparés d'ailleurs à ça.
Ben, moi, au contraire, je trouve pas que ça paraît niaiseux. Je l'avais déjà eu la réflexion. Je me disais, crime. Puis ce matin, j'écoutais votre entrevue avec Pascal, oui. Justement. J'avais des frissons. Je trouvais ça incroyable. C'était un beau moment de radio. Puis c'est un moment exceptionnel pour ces personnes-là qui ont réussi le défi à monter cette montagne-là. C'est un défi extraordinaire qu'ils ont réalisé. De eux, ce qu'ils ont vécu ce matin, ça devait être fantastique. Mais j'y avais pensé, je m'étais dit, hey, quand ils vont redescendre, ça ne te tente pas. Ça te tente. T'as vécu ton moment, t'as réussi ton défi. Ça te tente juste de pouvoir aller te coucher dans un lit, pouvoir prendre une bonne douche, dans une vraie douche. Fait que non, la descente, c'est sûr que c'est probablement un défi physique moins intense. Mais le défi mental, je serais presque prêt à dire qu'il doit être encore plus intense que la montée.
Clairement. Vous l'avez entendu, c'est Mathias Turcotte qui est là. Mathias, ta fin de semaine de fête s'est bien passée?
Ça s'est super bien passé. J'étais un peu une personne fêtard dans la vie.
Ouais.
J'aime ça fêter.
C'est le fun de fêter.
Je suis encore jeune.
Je peux me le permettre.
Mais en fin de semaine, j'avais beaucoup trop de devoirs à reprendre. Donc, j'ai dû prendre une décision personnelle, une décision responsable, puis dire à mes amis, « Hey, les gars, vous savez quoi? En fin de semaine, je vais prendre ça relax, juste un petit souper au resto. Puis on pourra fêter plus tard quand je vais avoir plus de temps, mais j'ai des devoirs à faire en fin de semaine. Mais j'ai quand même pris le temps de fêter ça avec ma famille, mon frère qui est descendu du Saguenay. On a eu beaucoup de plaisir. » Mais tu sais quoi, je suis pas sorti au bord, j'ai pas viré de brosse, rien. Puis pourtant, ben j'ai eu autant de fun que si je l'avais fait.
Vraiment.
Puis on a été accompagné d'une super belle température toute la fin de semaine. Ouais. J'aurais pas pu demander mieux. J'aurais pu demander ma blonde qui pouvait pas descendre malheureusement. Mais je vais fêter ça avec elle fin de semaine prochaine au Saguenay.
Hey, ça, c'est beau. Et ça va nous faire entrer immédiatement dans le...
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonin Iaccarini.
Antonin Iaccarini qui est à distance aujourd'hui. Comment ça va?
Hey, ça va bien. Devine, je suis où?
T'es où?
Je suis à Anjou.
Ouais.
Dans l'est de Montréal. Je savais même pas qu'il y avait des golfs dans l'est de Montréal. Je suis au golf. Mais c'est pas parce que je m'en allais jouer un petit 18 trous aujourd'hui.
Non, c'est pas pour ça.
Non, c'est pas ça que j'allais faire. En fait, j'animais un débat de candidats municipaux. Hein, c'est les municipales partout au Québec, là, pas juste à Québec. Et il y avait un débat aujourd'hui organisé par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Ils ont toutes sortes d'enjeux. Et notamment, un tramway. Fait que ça nous connaît, ça, les tramways.
Hey, parle-nous-en un peu de ce débat-là, justement, sur le tramway. Comment ça se passe à Montréal? Parce que c'est Mobilité Infra-Québec qui va s'en occuper, contrairement ici à Québec, à la Caisse de dépôt et de placement, la section infrastructure.
Oui, dans le fond, c'est censé être le premier grand projet géré par cette nouvelle agence qui avait été créée par Geneviève Guilbeault, qui est censée rendre les projets plus efficaces, dépolitisés. Hein, c'est la mode en ce moment, de tout dépolitiser. Et ici, dans l'Est, en fait, il y avait un projet il y a quelques temps de REM de l'Est, donc un peu différent qu'un tramway, mais qui coûtait cher, mais aussi, surtout, qui n'avait pas d'acceptabilité selon la manière qu'il était construit, des grosses rampes de rails.
Sociale à Montréal. Tiens, c'est un terme qu'on entend à Québec.
Oui, ben c'est ça. Ça existe aussi à Montréal, mais c'était le premier ministre Legault là, qui avait dit, écoutez, il n'y a pas d'acceptabilité parce que, vous savez, le REM, ça roule sur des espèces de rails sur un gros pont et des gros poteaux. Et ça, quand le REM de l'Est arrivait au centre-ville de Montréal, ça ne passait pas. Donc, on s'est retourné vers un projet de tramway. Et là, la semaine passée, la nouvelle PDG de la nouvelle agence Mobilité Infra-Québec a ouvert la porte à faire quoi? un SRB, ça dit quelque chose?
Ça me dit quoi, ça, un SRB? Puis tu sais comment, moi, je privilégie le SRB au tramway, tout simplement parce que c'est plus malléable et que ça couvre un plus large territoire. Mais Antonine, je le sais, quand je parle de ça, dans une radio privée de Québec, j'ai l'air de sortir complètement du champ gauche. Mais encore ce matin, on a reçu David Chabot de l'entreprise Trudel. Ils sont allés en Allemagne pendant une semaine pour voir comment ça se passait là-bas en logement social, logement abordable et transport en commun. Puis il est revenu puis il a dit, vous savez quoi? Il y a à peu près 10 SRB, 6 lignes de tramway. On se déplace comme on veut, quand on veut. Il y a des métros. Puis il nous a ramené plein de trucs sur le logement abordable, logement social. Fait que on pourra pas y échapper à Québec. Même si non. Vous voulez être encore dans votre char, ça va prendre ces modes de transport-là.
Absolument. Puis les modes de transport actifs aussi. Hein. On a vu, il y a une sortie de sa maman sur le déneigement des pistes cyclables. Les débats sur les pistes cyclables, ça passionne aussi à Québec comme à Montréal. Mais moi, c'est sûr, quand tu voyages en Europe, tu as une autre perspective. Parce que, bon, c'est sûr, ils n'ont pas la même densité, on n'a pas la même culture. Mm-hmm. Mais c'est tellement efficace, puis les gens vont travailler en transport collectif et actif. Ça fait partie vraiment du mode de vie. C'est moins intégré ici. Moi, sur la question des pistes cyclables, ben, tu sais, des fois, on n'est pas toujours d'accord, toi puis moi, sur les pistes cyclables, mais moi, à chaque fois que je vois un vélo sur une piste cyclable, je me dis un char de moins dans mon chemin. C'est automatique, c'est comme ouais. ça que je le vois. Puis j'ai eu mon permis de conduire assez tard dans la vingtaine. J'ai grandi en ville, je prenais le transport collectif. À un moment donné, je suis allée chercher mon permis parce que là, il faut être libre puis il faut être capable de se déplacer. Mais j'ai pris l'autobus très, très longtemps. Mais une fois que tu changes que tu as ton auto à toi, là, c'est bien difficile de revirer de bord, tu sais, de lâcher ton auto solo. C'est plus confortable, c'est plus flexible. Puis oui, il y a des coûts, mais ils sont pas. Moi, je pense pas que comme automobiliste, on paye tous les coûts vraiment de non. ce que ça coûte d'avoir autant d'auto solo à Québec. Après ça, c'est très dur de me faire sortir de mon auto pour reprendre un bus.
Ben moi aussi. Puis cela dit, je voyage en automobile, mais c'est juste qu'il faut avoir un mix des deux. C'est pas vrai que c'est juste avec l'automobile qu'on va s'en sortir. Je donnais l'exemple que je suis à Los Angeles. L'autoroute est large de 8 voies. Ça m'a quand même pris 2h30 entre Los Angeles et Anaheim, un trajet qui est censé me prendre 45 minutes. Donc, tu sais, c'est juste pour dire que ça prend d'autres modes de transport. Faut bien les réfléchir. Faut les mettre selon un échéancier efficace. Puis c'est pour ça que je privilégie plus le SRB que le tramway. Mais ça prend quelque chose. C'est pas vrai que dans 10 ans, Québec, avec l'augmentation de la démographie, on va s'y plaire juste avec des autobus du RTC. On va être dans la congestion partout.
On peut pas juste ajouter des voies à des routes, puis des routes, puis des routes, puis ça fonctionnera pas, mais je suis d'accord. On finit toujours par se rejoindre, même si on n'est pas toujours d'accord sur quel mode de transport structurant pour Québec puis les pistes cyclables, on est d'accord là-dessus.
On a une belle conversation intelligente. On est dans le caucus Iacarini avec Antonine Iacarini. C'est du lundi au jeudi, de midi à 12h30 dans l'émission On en jase. Antonine, dis-moi donc, on va continuer quand même pistes cyclables 2 secondes, puis après ça, on y va sur les propos haineux, parce que tu voulais me parler de la sortie de Sam Ahmad sur les pistes cyclables où il a dit « Je les déneigerai pas, je vais juste les déneiger à proximité des cégeps et des universités parce que les étudiants ont besoin de ça. » Mais moi, tout de suite, je me suis dit dans ma tête « Ouais, c'est parce que si tu déneiges pas en entier, les étudiants ne font pas juste habiter à côté du cégep et de l'université. Si c'est ça, ils vont y aller à pied.
Bien, c'est ça. Puis c'est exactement, ça rejoint ce que je te disais il y a un instant. C'est que, justement, je trouve qu'au cégep et à l'université, c'est un point tournant aussi de comment tu vas voir et approcher les transports dans ta ville et dans ta vie et dans ta carrière et avec ta famille. Moi, je pense qu'on doit retarder le plus longtemps possible l'acquisition d'une auto. C'est vraiment, pour moi, c'est une des clés. Puis c'est vrai que si c'est juste autour des établissements d'enseignement, mais ça sera pas suffisant, là. Évidemment qu'il y a des gens qui habitent en résidence puis qui habitent pas loin, mais c'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Donc, ça nous prend, oui, des transports en commun qui sont efficaces. Mais il y a vraiment un travail qui a été fait de créer un réseau de pistes cyclables. Est-ce que c'est légitime de se demander coût-bénéfice? Est-ce que ça donne des résultats? Et je suis d'accord qu'on fasse un débat là-dessus. Parce que, évidemment, il y a de la neige à Québec 7 mois ouais. par année, à peu près. Là. J'exagère à peine.
Non, mais en effet.
Et ça coûte quelque chose, évidemment, entretenir les pistes cyclables. Ça coûte quelque chose aussi entretenir les rues, de toute façon. Là. Les pistes cyclables, on les fait à même les rues, là, généralement. Ça m'amène, qu'est-ce qu'il dit? C'est, moi, l'argent que je ne mets pas là-dedans, mais je vais le mettre à mieux déneiger les trottoirs. Et je suis obligée de lui dire que moi, je l'ai vu, la dégradation du déneigement des trottoirs.
Ah, clairement.
Et même les routes, là, tu sais,
ben oui.
Des tempêtes de neige où on a une voie de moins, en fait deux voies de moins stationnent les deux directions sur des axes très importants comme Laurier-Grande-Allée, René-Lévesque ou Chemin-Sainte-Foy. Hey,
Honoré-Mercier.
Honoré-Mercier, ça bug complètement
l'enfer.
La circulation de la ville. Donc, évidemment, que je pense qu'il y a des questions à se poser sur le déneigement, puis c'est un débat qui est absolument légitime, et c'est dans les missions des municipalités de gérer ça. Il faut que ce soit extrêmement bien géré. Autre élément, c'est que les trottoirs, ben, les personnes aînées, sa mamade a beaucoup insisté là-dessus, clairement un électro-cible pour sa mamade. Qui ont de la difficulté des fois à circuler, qui n'ont pas d'auto nécessairement toujours aussi, les personnes aînées, ça peut être dangereux pour elles. Un petit mot aussi pour les personnes handicapées. Moi, je fais partie de ceux qui ont toujours une pensée pour les personnes handicapées qui sont malheureusement souvent traitées comme des citoyens de seconde classe dans notre société. Très dur de circuler l'hiver.
Et c'est tellement une problématique, et c'est une problématique réelle avec la ville de Québec. Et je m'explique, j'ai travaillé au RTC sur l'accessibilité du réseau. Donc, et là, on a fait plein de modifications à des arrêts pour s'assurer que la pente était adéquate pour que les personnes en fauteuil roulant puissent avoir accès à l'autobus. Le bordel en hiver où ces arrêts-là sont censés être déneigés en priorité par la ville, le sont pas. Et là, nous autres même du RTC, on payait des employés d'entretien pour dire « va me déneiger ça au plus sacrant, ça n'a pas d'allure ». Sur l'axe métrobus, les gens sont obligés d'engendrer le banc de neige de 2-3 pieds de haut. Ça fait aucun sens.
Ça,
c'est une problématique réelle de la Ville de Québec.
Tu sais, un dernier petit mot sur les personnes handicapées qui habitent dans notre ville, dans notre communauté. Le transport adapté non plus, c'est pas hier. Fait que, tu sais, quand tu regardes les transports collectifs plus le transport adapté, je te dis qu'on a du travail à faire pour les inclure davantage dans notre société. Bon, c'est ça. Cela dit, les gens, les électeurs ont le choix. Tu sais, du côté de l'administration Marchand, le message est clair. Nous, c'est un réseau complet de pistes cyclables à l'année. Et du côté de sa maman, ce qu'on dit, c'est ben ça va être une activité, un mode de transport qui va être saisonnier. Ce ne sera pas à l'année. Est-ce que ça encourage les gens à se tourner vers ce mode de transport-là de manière sérieuse? C'est sûr que je pense que ce n'est pas le cas. Maintenant, il faut savoir si les gens trouvent que c'est une priorité de mettre leur argent aussi dans l'entretien de ce réseau-là.
Exactement. On a des élections pour ça. D'ailleurs, on a une auditrice ou un auditeur qui nous écrit « Pour moi, 2023, c'est la piste cyclable sur le chemin Sainte-Foy et la piscine sur le boulevard Champlain, donc la fameuse plage qui a été faite, que j'ai le plus aimé pour ma sécurité et mon plaisir. » Donc, merci. Vous pouvez réagir, évidemment. 418-971-1021, que vous soyez d'accord ou en désaccord. J'en lis pas mal de textos, puis j'aime ça quand on chat. Justement, ma façon de penser. Antonine, ça m'amène à l'élection municipale. Il y a énormément de commentaires haineux sur les médias sociaux, normalement sur des groupes là, qui ont été créés comme Indécrassable Québec. Ce matin, le maire Marchand fait une sortie là-dessus. Il y a eu des excellents dossiers dans le Journal de Québec à cet effet-là. Je salue Stéphanie Martin et Taheb Moala, deux de mes collègues qui font un travail impeccable sur la couverture médiatique, sur la couverture de la campagne électorale à Québec, quoique certains puissent en penser qu'ils ont un billet. Ils n'ont pas un billet du tout. Ils rapportent les faits. T'en penses quoi, toi, Antonine, sur les médias sociaux?
Ben, on le dénonce depuis plusieurs années que le climat sur les médias sociaux est très acrimonieux. Ça empoisonne la vie des élus, des candidats aux élections. On en parle beaucoup. Moi, c'est sûr que je trouve que je me demande toujours est-ce que ça sert vraiment les politiciens d'amener cet enjeu-là toujours à l'avant-scène. Je pense que c'est important de le dénoncer une fois de temps en temps pour faire baisser le ton, baisser un peu la chaleur. Des fois, là, quand on est derrière un écran ou un téléphone, on se sent dédouané de dire des choses qu'on ne dirait jamais à visage découvert devant quelqu'un qu'on rencontre en personne. Donc, ça peut être important de le faire. À Québec, ça a toujours été... Je trouve que ça brasse toujours à Québec. Tu sais, ça y va fort. C'est sûr qu'on a des radios aussi qui brassent beaucoup, tu sais, puis que tout ça est un écosystème là, qui est très existant ici. Mais c'est pas unique à Québec non plus. D'ailleurs, ça rebondit jusqu'à Montréal, cette affaire-là, Jeff, parce que tantôt, les candidats à la mairie à Montréal étaient scrommés, là, faisaient une mêlée de presse.
Oui, et là, il y a un candidat dans l'équipe de Soraya Martinez qui a écrit que Bruno Marchand est un attardé mental, je pense. Je me trompe-tu? C'est à peu près ça, hein?
C'est à peu près ça. Donc, Alexandre Giasson, les candidats du parti Ensemble Montréal, oui, dans Hochelaga, il était présent, je pense, aujourd'hui, il me semble l'avoir aperçu. Donc, des propos sur les médias sociaux, bon, il y avait contre Bruno Marchand, mais il s'était fâché après pas mal de monde et je vous épargne les commentaires qui avaient été faits. Il y avait avait, disons, beaucoup de mots d'église, des références à des mots de toilette, comme je dis à mon enfant quand je dis qu'il ne faut pas dire des mots de toilette. Donc, je vous épargne les détails. Mais je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans la campagne électorale, de rappeler que débattre, oui. Mm-hmm. Être en désaccord, puis vigoureusement en désaccord, c'est vraiment correct. Maintenant, les insultes, on dit toujours, c'est l'arme des faibles. Donc, si vous êtes vraiment en désaccord avec quelque chose, puis vous tombez dans les insultes, en fait, vous ne vous rendez pas service. Vous perdez votre crédibilité, vous perdez l'écoute de l'autre. Moi, je trouve qu'au Québec, on a de la misère à débattre. Soit qu'on balaye sous le tapis, on n'aime pas sa chicane. On n'aime pas sur la chicane. C'est pas beau. Ou ça devient personnel. Mais c'est pas ça, débattre, la gang, là, t'sais. Puis je pense qu'on a du chemin à faire ensemble pour apprendre à être sur les arguments. Puis souvent, ton adversaire, là, il y en a des points faibles, objectivement. La personne qui est parfaite, ben, attaque-toi au point faible, pas à la personne. Puis aussi,
j'aime ça ce que tu dis là, parce que je vais prendre l'exemple de Bruno Marchand. Moi, j'ai attaqué le don sur le développement économique. Québec a été en recul en 2023, puis en très faible hausse en 2024. Attaque-le là-dessus.
Ben oui, puis l'autre affaire, c'est que honnêtement, les proches des candidats et des élus, c'est pas touche, OK? Ça dépasse une ligne. Ils ont rien demandé. En plus, c'est que moins il va y avoir de gens qui vont vouloir y aller en politique, moins vous allez avoir de choix, les amis. Puis, tu sais, en termes de qualité aussi de gens qui vont vouloir se lancer, il faut que ce soit attractif aussi d'aller en politique. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas être rough avec eux autres, qu'on ne va pas les questionner, qu'on ne va pas être en désaccord sur des choses, mais d'attaquer les proches, la famille, les chums, les blondes du monde, ça n'a pas rapport et ça doit cesser.
Ben, tu as tellement raison, parce que 4 municipalités présentement dans Chaudière-Appalaches qui n'ont même pas de candidat à leur mairie. Donc, tu vois comment ça cause un problème. Avant qu'on passe là, à ce qui se passe en France, parce que c'est le bordel total, je lis un texto de Jerry qui dit « Moi, je marchais 15 à 20 minutes l'hiver pour aller au secondaire. Jamais j'ai pris mon vélo l'hiver. J'ai jamais pensé à ça. Je trouve ça ridicule. Merci, Jerry, pour ton point de vue. » Je veux t'amener à Respect citoyen. J'ai tapé hier sur Facebook « Tramway, non merci, no way ». Et ça m'amène maintenant à la page Facebook de Respect citoyen. Et « Tramway, non merci, no way », on se rappelle, il y avait énormément de commentaires haineux et disgracieux. Comment tu trouves ça?
Ben, moi, je trouve que c'est un boulet pour Stéphane Lachance. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est pas un hasard qu'on fasse une sortie là-dessus, parce que moi, si j'étais dans les autres équipes à Québec, je me dirais ça, c'est une pleure de banane pour Stéphane Lachance puis pour Respect citoyen.
C'est clair.
Parce que si tu dis, toi, t'es chef de Respect citoyen, puis là, tu dis, ben là, ça se comprend, les gens sont fâchés, quand on les écoute pas, c'est ça que ça donne. Ben, tu viens justifier l'injustifiable, parce qu'il y a des choses qui ne se justifient pas. Mm-hmm. En même temps, si tu dis, c'est vrai, il faut faire attention, puis tu dénonces les propos de gens qui t'appuient, ben c'est toujours inconfortable. Fait que c'est sûr, c'est une pleure de banane pour Stéphane Lachance, puis on peut être certain que dès qu'on va pouvoir lui remettre ça au visage pour le reste de la campagne, ben ça va être fait. Puis je veux ajouter aussi que les journalistes vivent beaucoup ça aussi, là, les propos haineux sur les médias sociaux. Ça trouve toujours écho des sorties comme ça, parce que c'est un enjeu commun. C'est pas parce que les journalistes veulent prendre le bord de Bruno Marchand, c'est que les journalistes aussi, ils sont très à même de comprendre ce que les élus vivent, car ils le vivent aussi.
Clairement.
Donc, ça va toujours pogner, entre guillemets, dans les médias, ces affaires-là.
Exactement. Et je conclue justement ce débat-là avec le commentaire d'un auditeur ou d'une auditrice qui correspond parfaitement à mon point de vue. Tu peux critiquer, mais apporte des contre-propositions, de quoi de constructif et non seulement des insultes. Ça fait juste monter le ton. Et ça démontre que le QI n'est pas très élevé et que tu ne changeras rien. Ben écoute, j'aurais pas pu mieux conclure.
On est d'accord.
Yes! En France, Antonine, explique-nous ça. C'est le vrai bordel, là. Le nouveau premier ministre français, Sébastien Lecornu, qui a démissionné 14 heures après la confection de son nouveau gouvernement. On va-tu s'en sortir là-bas? Qu'est-ce qu'on fait?
Écoute, on n'a même pas eu le temps de savoir à peu près c'était qui ce bonhomme-là, parce que honnêtement, c'est un record de non-longévité. Là, il y avait une blague il y a quelques années au Royaume-Uni, parce que les premiers ministres ne te font pas longtemps, puis il y avait eu un concours. Qu'est-ce qui va te faire le plus longtemps, le premier ministre ou cette laitue iceberg? Là, vraiment, la laitue iceberg aurait battu Sébastien Lecornu à plate couture en termes de longévité.
Pauvre monsieur Lecornu.
Bon, écoute, on le salue. Aussitôt nommé, aussitôt démissionné. On se rappelle juste un peu le contexte. Il y a eu des élections législatives, là, parce que les présidentielles et les députés, c'est deux élections qui sont séparées en France. Il y avait des législatives qui avaient été lancées en 2024. Puis, dans le fond, le président Macron, ce qu'il voulait faire, c'est d'essayer d'aller rechercher une majorité, voyant la montée de quoi? De l'extrême droite, donc le parti de Marine Le Pen, Rassemblement national. Et il n'a pas gagné son pari, donc. L'Assemblée nationale s'est retrouvée tout aussi divisée, polarisée aussi, ce qui fait que personne n'est capable de travailler ensemble. Quand on a une Assemblée nationale qui est divisée, on peut faire des partis de coalition, mais quand les positions sont tellement éloignées et que c'est tellement, tellement morcelé, ben on n'arrive pas à faire des coalitions qui avancent. Ce qui s'est passé avec le dernier premier ministre, c'est qu'il a été censuré, là, M. Bayrou, il y a quelques semaines à peine, c'était en septembre dernier. Donc, le pays est en quelque sorte paralysé, et ça tombe bien mal parce que les enjeux sont nombreux. Il y a une conjoncture mondiale qui fait que les défis dans tous les pays sont là, crise économique, crise commerciale avec les États-Unis, mais aussi des enjeux qui sont propres à la France, puis notamment un taux d'endettement, les déficits qui sont très, très élevés. Et là, quand on a une Assemblée nationale qui ne fonctionne pas, bien, ça n'envoie pas un bon signal au marché boursier non plus, ce qui fait qu'il y a une tempête aussi sur les marchés boursiers et la dynamique économique et financière. C'est comme une spirale négative dans laquelle on se trouve présentement. Donc, Emmanuel Macron, devant cette situation-là, avec l'incapacité de nommer un premier ministre qui gouverne puis qui est capable de faire passer des lois, etc., bien, qu'est-ce qu'il y a comme option? Il peut renommer un autre PM, puis espérer que celui-là, là, ça va faire dans l'Assemblée nationale.
Ouais, mais là, on est rendu à quoi? 3-4 que ça n'a pas fonctionné? Là?
Ben c'est ça. Là, c'est comme un feu roulant. Ou il pourrait relancer des élections législatives en espérant un résultat qui serait différent. Mais en ce moment, là, l'extrême droite, Rassemblement national, continue d'aller chercher pas mal la faveur des électeurs. Et la gauche, très polarisée. Tu sais, quand on a extrême droite puis extrême gauche, là, avec France insoumise d'un côté... Essaye de faire fonctionner
ça. C'est là, ils ne sont pas capables de traiter un centre. C'est ce qu'ils essayent depuis deux premiers ministres. C'est qu'on tente de se mettre plus au centre. Mais on n'est jamais capable d'avoir une majorité parce qu'il y a trop d'extrême-gauche puis il y a trop d'extrême-droite. Je ne me trompe pas en analysant ça.
Tu résumes excessivement bien la situation. Puis le centre, qui en fait le président actuel est très centre avec son parti qui l'a créé ensemble, En Marche, pardon, pour la France, veut pas, il y a une usure du pouvoir. C'est un parti qui est articulé beaucoup autour de sa personne, un peu comme la CAQ ici au Québec avec François Legault. Donc là, c'est ça l'autre option qu'il aurait, Emmanuel Macron, c'est de lancer des élections, non seulement législatives, mais présidentielles, lui-même mettre son siège en jeu en disant « Écoutez, pour l'intérêt du pays, ça ne fonctionne plus. Je suis prêt à risquer que mon parti, finalement, ne soit plus au pouvoir pour avoir un gouvernement qui est fonctionnel. » Mais en ce moment, c'est l'extrême droite qui est premier dans les sondages. M. Bardella, là, qui serait probablement candidat présidentiel, étant donné que Mme Le Pen a des petits problèmes avec la justice présentement.
En effet. Donc, ce serait vraiment la solution, c'est que Macron se mette son siège en jeu pour qu'on débloque le tout. Mais compte tenu que c'est l'extrême droite qui est en avance, pas sûr ça va se faire.
Ça arrivera pas. C'est ça. La réalité. Donc, la France risque de rester dans l'impasse pendant encore plusieurs mois. On leur souhaite bonne chance.
Épouvantable. Et Antonine, on termine rapidement avec la visite de Mark Carney à Washington demain. C'est déjà sorti dans les médias qu'on allait parler beaucoup d'acier. Et là, je vais faire mon nationalisme à 25 cents. Coudon, on va aller parler d'acier pour sauver Hamilton, mais on ne parlera pas d'aluminium pour sauver le Saguenay?
Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, première réaction. Bon, c'est sûr qu'on a aussi de la sidérurgie au Québec, mais quand on pense aux intérêts stratégiques du Québec, on pense à l'aluminium, évidemment, en premier lieu. Ça a coulé, là, fait que c'est pas nécessairement... On n'a pas eu beaucoup d'explications officielles de la part du gouvernement, mais qui prioriserait, qui essaierait d'aller chercher des gains, au moins pour l'acier. C'est la deuxième fois cette année que Carney va aller directement rencontrer le président Trump. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps, mais c'est vrai que la situation, c'est pas trop là, dans une situation dans laquelle on est présentement. Faut pas penser non plus qu'entre ces rencontres-là, il se passe rien. Il y a des négociateurs qui se parlent, des ministres, évidemment, toutes sortes de canaux de communication qui sont activés. Mais des fois, quand on a vraiment une rencontre à haut niveau, ça permet de débloquer certaines choses. L'affaire avec quelqu'un comme M. Trump, c'est qu'on n'est pas dans des relations classiques là, d'affaires étrangères. Il n'a pas tendance à voir ces discussions-là comme étant dans un but gagnant-gagnant. Hein. On pense plutôt gagnant-perdant dans le cas de M. Trump. Et ça fait quelques mois maintenant que M. Carney essaie de baisser un peu les attentes qu'il avait tellement montées pendant la campagne électorale.
Beaucoup trop montées.
trop monté. Après, des attentes très élevées aussi entourant le G7. Hein, on nous a fait miroiter des gains possibles. Alors
ben oui, qu'on aurait une entente de signer là, puis il s'est rien passé. Donald a repris l'avion présidentiel, puis c'était terminé. Là.
Après ça, on pensait que M. Trump allait peut-être arrêter de parler du 51e État parce qu'on avait changé de premier ministre. On s'est dit peut-être que c'est juste Trudeau qui haït puis qu'il va arrêter
pas
avec
pas plus tard que la semaine dernière, il en parle encore.
Donc, on n'est vraiment pas sorti du bois. Donc là, qu'est-ce qui reste à M. Carney? C'est d'essayer de mettre de l'avant qu'on a un pas pire deal en termes de tarifs, hein, si on se compare avec d'autres juridictions dans le monde. Mais je m'excuse, je veux pas être trop pessimiste, mais en même temps, je veux dire, regardons la situation du Canada. C'est notre seul voisin.
Ben, c'est ça.
C'était notre meilleur chum. Il s'est retourné contre nous puis il veut nous taxer notre lunch maintenant. Et 70 % de nos exportations s'en vont vers les États-Unis dans une économie qui est hyper, hyper intégrée. Donc, je m'excuse, là, mais quand Mark Carney essaie de nous dire qu'on est dans une position enviable par rapport au reste du monde, j'ai tendance à trouver qu'on exagère un peu.
Ben non, mais tu as tellement raison. Et en plus, là-dessus, c'est parce que la très, très grande majorité de nos exportations sont protégées par l'entente présentement Canada, États-Unis, Mexique. Et il n'y a pas de tarif qui est mis sur ces produits-là, mais tous les produits que Trump pouvait tarifer, il le fait plus haut pourcentage que pour le reste du monde.
Non, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, on n'a pas l'impression d'être proche plus qu'il y a 3 mois d'une entente sur ces enjeux-là. Et encore, M. Trump continue de faire miroiter aussi d'autres. Il dit qu'il pourrait en avoir d'autres. C'est pas nécessairement juste un levier de négociation pour lui, malheureusement. Trump, c'est une fin en soi, les tarifs. Et sur les menaces d'annexion, ben, des fois, il y en a qui peuvent le tourner en dérision et dire que c'est ridicule et que ça n'arrivera jamais. Il faut savoir aussi que M. Trump, une de ses idoles politiques, c'est l'ancien président McKinley qui, lui, c'était dans sa politique d'aller annexer, aller chercher d'autres territoires. Est-ce que ça veut dire que ça va arriver au Canada? Peut-être pas, là, puis il ne faut pas paniquer non plus. Mais demeure que même si on a changé de premier ministre, puis on nous avait promis là, quelqu'un qui était capable de gérer des situations comme celle-là, mais ça augmente la pression sur M. Carney de revenir avec des résultats. Puis en terminant, l'autre pleure de banane qui est devant lui, c'est que quand on fait des points de presse conjoint avec Donald Trump, c'est une boîte à surprise. Là.
Exactement.
Il peut sortir n'importe quoi de ça. Donc ça, c'est toujours un risque pour le premier ministre qui, depuis les derniers mois, a donné des gains à M. Trump sur certaines choses, mais l'a piqué aussi sur d'autres. Oui. C'est un peu le pire des deux mondes. Je peux penser notamment à la reconnaissance de l'État de la Palestine.
T'as entièrement raison. Des voyages en Europe, plusieurs voyages en Europe pour aller faire des deals économiques là-bas. Donc, ce qui ne peut pas plaire non plus à Donald Trump. Hey, Antonine Chermine, en te lisant un texto de Nadine. Je suis d'origine française, arrivée au Québec depuis 2021. Je ne suis pas étonnée de ce qui se passe dans mon pays. C'est un signe que les Français n'en peuvent plus du gouvernement Macron. Bon courage à ma famille, amie. C'est signé Nadine. Ouais, bon courage parce que c'est le bordel total politique là-bas. Antonine, on a la chance de te voir en studio demain?
Oui, on se voit demain.
Excellent. Bonne fin de journée. C'est toujours un plaisir de te parler. C'est Antonine Iaccarini avec son caucus Iaccarini du lundi au jeudi de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard 102.1. OK, là, Mathieu, je m'en peux plus. Breaking news. Connor McDavid a signé à Edmonton, baby.
Oui, le meilleur joueur de la Ligue nationale, puis je pense qu'on peut le dire sans hésiter. Connor McDavid est de retour à Edmonton l'an prochain, puis probablement pour plusieurs années. Pour combien d'années? Ça, on ne sait toujours pas. Pour quel montant? On ne sait toujours pas non plus. On se souvient que Kaprizov avait signé un contrat monstre de 17 millions sur 8 ans. Ça va ressembler à quoi pour McDavid? Ça va-tu être un 3 ans, un contrat de transition? Est-ce qu'on va y aller pour un 8 ans puis on va sortir un énorme montant? On ne sait pas encore. On attend les détails du contrat avec impatience. Dès que je les ai, je vous tiens au courant. Mais c'est confirmé, Connor McDavid est de retour à Edmonton.
Excellente nouvelle pour les partisans des Oilers. Sinon, dans l'actualité, 2-3 manchettes avant qu'on passe à la pause et qu'on y est avec notre enseignant préféré du cégep, Garneau. Parce que je dis ça parce que Luc Laliberté est dans l'émission aussi, mais lui, il est ex-enseignant. Toi, Roger, t'es encore enseignant quand je vais ouvrir ton micro, justement, Roger. Et également ex-enquêteur du SPVQ, Roger Ferland.
Effectivement.
Hey, je vous parle d'un procès qui reprend aujourd'hui. C'est le procès d'une fillette de 13 mois qui avait malheureusement perdu la vie à la suite de maltraitance. Du moins, c'est ça qu'on va tenter de déterminer s'il y a eu maltraitance ou non. Celle qui passe devant le juge à partir d'aujourd'hui, c'est un procès qui avait pris
pause en mars dernier après que le juge l'ait ordonné. Il reprend aujourd'hui. C'est sa gardienne Diana Torres Acosta qui va passer devant le juge, qui va continuer en fait son procès qui avait été mis en pause. Cette femme-là avait, on a des nouvelles preuves là, par rapport en mars dernier. On a eu un aveu à la suite d'une opération d'infiltration. Dans cet aveu, elle dit qu'elle a secoué l'enfant dans un but de jouer avec elle. Pourquoi elle a secoué? Elle dit qu'elle ne sait pas nécessairement, puis qu'elle s'attendait pas que la fillette allait mourir à la suite de ça. Donc, c'est l'aveu qu'elle a donné, à voir ce que le juge va lui donner comme sentence ou peut-être l'acquitter également. Ça va être à suivre de près au cours des prochaines semaines. Je vous transporte en politique fédérale. Le gouvernement de Mark Carney qui adopte une nouvelle méthodologie pour mettre en œuvre son prochain budget. Budget qui va être présenté le 4 novembre. Ça va être quoi, cette nouvelle méthodologie-là?
Hey, raconte-moi ça.
C'est une méthodologie qui est inspirée du Royaume-Uni.
Okay.
Donc, ce qu'on va faire, c'est une distinction entre les dépenses de fonctionnement courantes et les investissements en capital.
Ah.
Donc, on va plus juste dépenser, on va investir.
Chérie, on peut maintenant enlever de notre budget le paiement d'hypothèque et s'en aller au Mexique. Youhou!
Mais là, ce que je comprends, ça va pas être retiré du budget, ça va être vraiment juste dans deux colonnes différentes.
Puis
gros,
là, ben, on va se battre puis on va expliquer le déficit en disant « Ouais, mais c'est pas un déficit, c'est des investissements. »
Ben, ça semble vraiment plus une opération politique que vraiment une opération qui va changer réellement quelque chose. Ce qui va passer dans dépenses de fonctionnement courantes, on parle des dépenses publiques importantes, des transferts aux particuliers, des transferts au titre de la santé des programmes sociaux, et ainsi que des salaires et des avantages sociaux des employés de l'État. Du côté des investissements en capital, on parle des incitatifs fiscaux axés sur le capital en matière d'impôts sur le revenu des sociétés, la recherche et le développement du secteur privé, ainsi que des mesures pour augmenter le parc de logements. On va suivre ça, ce budget qui va être présenté le 4 novembre prochain de près. Pour l'instant, les informations qu'on a, c'est qu'il va probablement dépasser les 100 milliards de dollars et que les investissements en militaire normalement devraient atteindre la cible de 2% du PIB, soit 62 milliards de dollars.
Merci beaucoup, Mathias. Après la pause, on parle avec Roger Ferland, ex-enquêteur du SPVQ. Je veux creuser avec Roger. T'es un policier en filature, se retrouve dans un Starbucks, puis il y a un meurtre. Tu fais quoi? Est-ce que tu pars à courir après le bandit? Est-ce que tu restes caché parce que t'es en filature? On fait quoi avec ça quand on est un policier en filature? Je sais que vous aimez ces histoires policières. C'est pourquoi j'ai demandé à Roger de venir. Et par la suite, on fait un retour sur les médias sociaux et la politique municipale à Québec. On a des extraits de Bruno Marchand, également des extraits de Sam Hamad et une déclaration écrite de Stéphane Lachance à vous partager par rapport à cette très grande problématique. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est l'émission On en jase.